Vous êtes toujours à l'écoute de La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5 et on va continuer le reste de l'émission avec trois intervenants de plus, en plus de Alex et Jean-Martin qui restent avec nous en studio. On a Julien Laflamme, étudiant en économie, et Mauricio Correa, qui est étudiant en histoire à l'université, tous les deux à l'université de Sherbrooke, mais qui sont surtout membres du comité Solidarité Colombie, qui est un comité du regroupement autonome des jeunes. Puis également, il va avoir avec nous plus tard, en direct de la Colombie, David Lanville, qui pour élaborer davantage sur le sujet. Mais je parle trop, je les laisse se présenter.
Oui, salut. Mais en fait, tu l'as dit d'emblée, on est de la part du comité de solidarité avec la Colombie. Je pense que le nom du comité est assez clair sur ce qu'on fait. En fait, on travaille surtout avec le mouvement étudiant colombien qui vit de graves répressions de la part du gouvernement colombien puis de la part des groupes armés d'extrême droite, les paramilitaires en Colombie. Et donc, on travaille beaucoup à faire connaître la situation là-bas en Colombie pour que les choses s'améliorent, pour qu'il y ait une pression de la communauté internationale. Puis aussi, bien, on dénonce, lorsque c'est le cas, là, comme en ce moment, les politiques canadiennes. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, j'ai l'impression, là, mais en ce moment, avec l'enjeu du traité de libre-échange qui s'enligne entre le Canada et la Colombie, c'est de mauvaise augure, non seulement pour les étudiants là-bas, mais aussi pour les syndicalistes, pour les militants des droits sociaux. Donc, c'est un peu notre travail.
Parce qu'il faut comprendre qu'en Colombie, c'est pas le pays le plus chouette pour être syndicaliste, que ce soit étudiant ou travailleur, travailleuse. Est-ce que vous voulez élaborer?
Mais la Colombie, bon, je me présente, c'est Mauricio, nous, réfugié politique ici depuis 8 ans déjà. Et bon, je continue à travailler pour la paix chez nous en Colombie. Oui, effectivement, la Colombie s'est considérée comme le premier pays le plus dangereux pour pouvoir faire du travail des syndicalistes. Donc, 90% des syndicalistes au monde sont tués, sont assassinés en Colombie. Ce sont des chefs de Amnesty International et de plusieurs organisations de droits humains.
C'est la même chose environ pour les étudiants. Écoutez, juste la semaine dernière, il y a 3 étudiants qui ont été assassinés. Et puis, en moyenne, de ces temps-ci, 2 menaces de mort par jour. Donc, la situation est extrêmement grave. Et puis, la répression augmente compte tenu que le gouvernement sent la soupe chaude. Et il a de plus en plus besoin de sources de légitimité venant d'alliés internationaux. C'est ce que le gouvernement canadien tente de lui donner actuellement en signant un traité de libre-échange avec la Colombie. Mais je pense qu'à titre de citoyen canadien, on ne doit pas laisser faire cette chose-là.
Il faut dire d'ailleurs que ce traité de libre-échange-là a été, si on veut, un peu signé à la va-vite par nos charmants dirigeants. Il y avait une étude qui devait être menée pour s'assurer, bien sûr, qu'un tel traité était convenable au Canada. Puis, semblerait-il que le traité aurait été signé avant les conclusions du rapport. Donc, déjà là, on a une idée qu'il y a peut-être un mouvement plus politique, comme tu disais, de légitimisation qui est derrière ça, plutôt qu'un réel traité de libre-échange, puisque comme tu m'as déjà dit, semblerait-il que plus de 80% des rapports commerciaux avec la Colombie sont déjà en fait exempts de taxes avant le traité de libre-échange?
Oui, tout à fait. En fait, 80% de nos exportations en Colombie sont déjà exemptées. Mais je pense que, bon, il faut souligner d'une part que le principe même de libre-échange a ses maux, a ses désavantages. Je pense que la crise économique actuelle montre les défaillances du néolibéralisme, puis le libre commerce empêche complètement les États de leur mine le rapport de force par rapport aux multinationales. Mais en Colombie, la situation est encore plus drastique. C'est éminemment un dossier politique. Il y a, en arrière de ce traité-là, il y a d'énormes lobbies. Il y a les compagnies minières canadiennes qui sont bien installées en Colombie et qui veulent s'installer, qui veulent continuer à être là puis avoir une légitimité là-bas. La communauté internationale fait d'énormes pressions parce qu'actuellement, il y a des liens entre les groupes armés d'extrême droite et les multinationales. Dans certaines régions, les paramilitaires ont forcé l'extradition de personnes pour pouvoir se réapproprier des territoires, se réapproprier des terres pour leur propre production. Donc, c'est le genre de choses auxquelles on s'oppose par ailleurs.
Pour mieux comprendre le conflit, les différents, si on veut, les antagonismes en place, on a peut-être besoin d'une petite remise en contexte historique. Je ne sais pas si, Mauricio, tu veux...
Bon, je pense que parler de l'histoire de la guerre civile en Colombie, il faut presque un bac à l'université, presque un doctorat pour pouvoir comprendre tous les enjeux. Mais pour faire ça, en bref, faut comprendre que c'est un conflit social et armé. C'est très important de dire social et armé. Le gouvernement tente des fois à dire que c'est un conflit juste armé, mais non, il s'agit d'un conflit social et armé qui perdure de plus de... Ça fait 50 ans en plus, déjà. C'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs acteurs armés. C'est les guérillas qu'on a tous entendu parler dans les années 60, ça existe encore en Colombie. Et sont issus des conflits sociaux et économiques non résolus. Et je pense que c'est la racine du problème qu'il faut essayer de solutionner. Et on ne défend pas comme étudiants les groupes dits terroristes ou les guérillas, mais on maintient cette position que je viens de dénoncer, c'est-à-dire qu'en Colombie, il y a un conflit social et armé depuis de plus de 50 ans et qu'il faut qu'il y ait une solution politique à cette crise et pas une solution militaire comme on s'y applique depuis longtemps, depuis le début même de la crise. Donc, et que ça a devenu de pire en pire avec le plan Colombie qu'on a tous entendu parler, qui a été signé par les démocrates, par Clinton, en 1998, et qui perdure encore aujourd'hui. Donc, bon, c'est un conflit armé. Je ne sais pas si vous avez regardé les devoirs en fin de semaine, parler déjà de 4 millions de déplacés internes. Bref, la Colombie se place dans les 300 rangs des pays où il y a plus de déplacés internes, c'est-à-dire des personnes qui sont obligées de quitter leur région pour aller vers des autres régions pour pouvoir échapper à la mort carrément.
Puis, on parle de bien sûr des guerriers armés, mais il y a aussi des groupes paramilitaires, si on veut, qui serait en fait le bras armé, le bras armé secret peut-être de l'État, mais également des grands propriétaires terriens. J'imagine que c'est lié à l'exploitation agricole et minière.
Bon, les groupes paramilitaires, c'était une stratégie appliquée en Amérique latine. On l'a connue à Nicaragua, en différents pays. Mais en Colombie, prend de l'ampleur par un appui étatique très fort, très puissant, qui a été dénoncé par l'Organisation des Nations Unies. Et il y a des militaires en prison. De plus en plus, on voit l'armée, la police secrète être prise dans de gros scandales. Donc, oui, c'est un des groupes paramilitaires qui, en plus, ont été nourris par les narcotrafics, nourris par les grosses compagnies minières, nourris par les grosses multinationales comme Coca-Cola, qui a financé des groupes paramilitaires dans différentes régions, comme les bananes Chiquita. Mangez pas des bananes Chiquita, etc. Donc, oui, c'était des armées très puissantes.
Puis, est-ce que vous souhaitez continuer l'entretien avec David?
Oui, en fait, David est un de nos camarades qui est actuellement en Colombie. C'est un délégué de notre regroupement, le regroupement autonome des jeunes. Et donc, il est là-bas en ce moment, d'une part, pour faire ses études, puis d'autre part, pour faire du travail sur les droits humains. Puis, lui aussi s'active ardemment dans les réseaux colombiens pour dénoncer le traité de libre-échange qui est sur le point d'être ratifié par les deux parlements.
Donc, on va élaborer davantage par la suite. On va aller faire une pause musicale, puis tout de suite après, David sera avec nous en direct de la Colombie. Donc, on va être de retour avec Davy. Davy, tu nous entends? Salut! Ça va bien? Oui. Bon, on a peut-être un peu de difficulté avec la ligne téléphonique, mais je crois qu'on a quelque chose quand même.
Parfait.
Oui. OK, ça va bien?
Oui, ben, en fait, disons que pour moi, oui.
Parfait. Ben, on va pouvoir continuer en posant des questions. Puis on pourrait commencer en te demandant tout simplement, toi, t'as été, de quoi tu es témoin actuellement en Colombie?
Ben, en fait, disons que je suis témoin, c'est une espèce de recrudescence de ce qui se passe en fait au niveau des violations, au niveau des droits humains, tout ça. C'est sûr que c'est quelque chose quand même. On fait beaucoup de travail d'accompagnement avec différentes organisations, que ce soit le comité permanent pour les droits humains, que ce soit en fait l'Association colombienne du système universitaire. Et aussi, on fait quand même. On constate en fait ce qui se passe. On a constaté dernièrement en fait à Manizales une menace en fait qui a été faite par un nouveau groupe paramilitaire qui s'appelle les Aigles Noirs en fait. Et donc, ce groupe-là, ce qu'il fait, c'est que là, en ce moment, de la part du gouvernement, une stigmatisation qui se fait par rapport à tout ce qui nous est étudiant, social, indigène, tout. C'est-à-dire qu'au lieu de régler les problèmes sociaux du gouvernement, dès qu'on s'oppose à une politique du gouvernement, ils nous accusent d'une taxe de collaborer avec différents groupes guérilleros et tout ça. Et à ce moment-là, c'est sûr que ces gens-là, les leaders de ces groupes-là, deviennent des cibles pour les différentes milices d'extrême droite. Et à ce moment-là, les gens se trouvent menacés, se trouvent séquestrés, se trouvent torturés. Il y a quand même beaucoup de détentions arbitraires aussi qui sont faites de fausses accusations. Les gens sont enfermés pendant à peu près un an et demi. Et faute de preuves, et faute d'accusations, on les relâche. Mais ils ont quand même passé un an de leur vie en prison. Et ça, c'est le gouvernement qui fait ça. Juste au niveau du gouvernement lui-même, il y a aussi le scandale qu'on appelle les faux positifs. Les faux positifs, ça, c'est une des espèces c'est que l'armée, en fait, va, par exemple, tuer un paysan, un simple paysan, un fermier, et à ce moment-là, va faire passer ça pour un assassinat, en fait, de quelqu'un de la guérilla. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces gens-là vont compter dans le compte au niveau des gens tués, en fait, dans ce conflit-là. Et il y a une récompense, en fait, que le gouvernement offre à ces militaires-là. Donc, il y a des innocents qui sont tués carrément sous une politique gouvernementale. Et le gouvernement, en fait, nie tout, en fait. Il nie à peu près toutes les violations. Il dit que son gouvernement fait des efforts. Et d'ailleurs, le gouvernement Harper suscrit totalement cette politique-là parce que le gouvernement colombien, sa thèse, c'est aidez-nous à nous renforcer, à renforcer notre pouvoir. Et pour pouvoir mettre fin au conflit aux violations de droits humains, alors qu'au contraire, les violations de droits humains, les crimes de lèse humanité ont augmenté de 20% entre les deux dernières années. Juste au niveau des leaders syndicaux, il y a 25% de plus d'assassinats cette année que l'année passée. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Le gouvernement manipule les chiffres totalement parce qu'il ne veut pas s'en occuper. Au contraire, ça l'arrange parce que du moment, en fait, que les syndicalistes sont tués, ça permet de faire baisser le mouvement syndical. Et à ce moment-là, les salaires restent bas, ça attire l'investissement étranger. Et ça, Harper, en fait, est totalement au courant de ça, mais appuie totalement ça, parce que justement, ça lui fait des sorties pour ses entreprises.
Je pense qu'il faut souligner là, ce que David vient de dire, parce que tantôt j'ai parlé de l'importance d'une solution politique au conflit, pas une solution armée. Les gouvernements, ce qu'ils disent, par exemple, à un soldat ou à un membre de l'armée colombienne, si vous tuez un guerrier ou un terroriste, on vous donne tant d'argent. Et il offre la même argent aux citoyens. Mais imaginez-vous ça dans un pays où il y a plus de 60% de pauvreté. Donc le problème, c'est que ça devient une chasse à sorcières. Moi, je cherche le terrorisme n'importe où. Je vais aller à tuer un enfant dans la rue. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants dans la rue, des personnes dans la rue carrément qui habitent. Donc, on va tuer n'importe qui, ce qu'on appelle les jetables, entre guillemets, parce que personne ne demande, pas de famille. Et je vais aller à demander l'argent au gouvernement parce que je viens de tuer un supposé terroriste ou un supposé guerrier. Donc, ça fait monter en flèche les violations des droits humains.
Il y a aussi une chose, en fait, qu'il faudrait peut-être considérer, c'est que souvent, en fait, l'image qu'on a de la Colombie, c'est la drogue, c'est la guérilla et tout ça, Mais par contre, ce qui se passe, c'est que réellement, c'est 75% des crimes de lèse humanité, selon Human Rights Watch, sont faites par en fait, le gouvernement ou les milices d'extrême droite. Donc, c'est totalement faux. C'est sûr qu'il y a, il reste quand même un 25%, là. Mais par contre, le gouvernement ne fait rien contre ça parce qu'au contraire, bon, disons que, comme je disais, comme bien le réseau, c'est juste là, ça l'arrange peut-être un peu, mais surtout, il y a une impunité, en fait, qui est faite avec ça. Dès qu'il se passe quelque chose, soit avec les parents, soit avec l'armée ou la police, je vais juste vous donner le cas de Johnny Sullivan, en fait, qui est un étudiant qui a été tué par la police, en fait, lors d'un raid dans une université. Moi, j'ai rencontré sa mère, en fait, 2 ans après l'incident. Sa mère me racontait que l'enquête, en fait, a été arrêtée faute de fonds. Et surtout que l'enquête ne pouvait pas être poursuivie parce qu'on a fait changer 9 fois le juge. C'est-à-dire le juge qui devait être pris dans ce cas-là a été changé 9 fois pour s'affreiner les choses. Et donc, on change peut-être 1 ou 2 fois le juge pour des raisons, ça on peut comprendre, mais 9 fois, ça démontre vraiment un acharnement du gouvernement et vraiment un lapsus de la part des autorités, une volonté totale de rendre ces crimes-là impunis. On va renforcer, avec un traité de libre-échange, par exemple, on va aller renforcer la position d'un gouvernement qui agit de la sorte. C'est vraiment quelque chose d'extraordinairement épouvantable, une raison pour laquelle on est très fort ici.
Puis, je pense que, David, tu compléteras mes propos, mais je pense que le gouvernement canadien souscrit énormément à cette vision du gouvernement colombien qui est de dire il n'existe plus de paramilitaires depuis quelques années. Les anciens groupes paramilitaires ont déposé leurs armes et donc on ferme non seulement on essaie de retarder des processus judiciaires, mais aussi on ferme les yeux sur le fait qu'il existe encore des paramilitaires. C'est le discours gouvernemental de la Colombie. Et puis, le Canada souscrit à ça. Je pense qu'on peut témoigner de notre propre expérience au regroupement autonome des jeunes où on a essayé de faire venir 2 étudiants du mouvement étudiant colombien en tournée au Québec pour les faire témoigner de la situation en Colombie. Puis, l'ambassade a refusé les visas. Et ils refusent souvent les visas de réfugiés sous prétexte qu'il n'existe plus de paramilitaires.
Donc, il y a même des réfugiés totalement qui sont dit, bon, ben, il n'y a plus de problème en fait ici, alors que pourtant, je veux dire, on voit des lettres de menaces. Là. Moi, j'en ai vu des lettres de menaces là, qui sont arrivées à des exécutants. Et ça, là, je veux dire, ça ne sort pas de nulle part, là, ça se sort de gens. Et surtout aussi, une autre chose qui serait bien soulignée, c'est que durant cette démobilisation, ce qui s'est passé, c'est pourquoi c'est un échec, c'est que les listes, en fait, des gens qui sont dans ces groupes-là ont été fournies, c'est une partie, par les groupes paramilitaires eux-mêmes. Donc, si je veux dire, on a laissé le contrôle à ces groupes-là. Je veux dire, c'est une totale farce. Et maintenant, en fait, ils ont carrément changé de nom. Je veux dire, c'est ça qui est arrivé. Ça devrait nous s'appeler les AIC, les unités de défense militaire de la Colombie. Ça s'appelle maintenant les Aigles Noirs. Donc, c'est juste un changement de nom, mais pourtant, il y a une recrudescence, en fait, de ce phénomène-là. Et même, je peux vous dire, c'est pas juste, en fait, les crimes commis par ces milices-là. C'est aussi des crimes commis par le gouvernement lui-même. Quand on pense aussi à des suivis, en fait, il y a des gens qui sont suivis carrément tous les jours, et on se rend compte que finalement, ben, c'est par l'équivalent de la GRC, en fait, qui sont suivis, et par la suite, ben, on apprend que, bon, telle personne est enlevée, telle personne est assassinée. Et même le président lui-même, avec les médias, contribue à ça, en fait, parce que, justement, quand c'est un étudiant, quand c'est un syndicaliste qui est assassiné, ça, c'est pas grave, de toute façon, ces milieux-là, c'est tout infiltré, de toute façon. Donc, je vais vous donner le cas aussi de Guillaume Marie, qui est un gars qu'on a connu ici, qui était le secrétaire général de la société colombienne du universitaire. Et lui a juste été posé, en fait, dans un débat avec le président, des questions, en fait, à savoir, bon, les crimes de la humanité ou si la professeure des universités. La réponse du président, ça a été, écoutez, moi aussi, j'ai été dans le conseil étudiant et je sais que c'est les terroristes qui ont les meilleurs discours. Donc, il a répondu ça. Ensuite, dans une revue, en fait, que Paris, une semaine après, on le décrit comme étant un infiltré, qui n'utilisait pas cette université-là, alors que c'était faux, il y a son inscription en droit. Et en fait, quelques semaines plus tard, on apprend qu'il a dû s'exiler en Norvège parce qu'il a été menacé. Donc, vous voyez l'espèce de connivence qui se passe entre les médias, le gouvernement et les milices, qui je veux dire, qui pas bien en tout cas, là, je me sens que c'est trop évident, là.
Donc, on va en profiter pour aller faire une pause commerciale, puis on va être tout de suite de retour en onde après pour continuer la discussion avec les intervenants au sujet de la Colombie. En onde à la Rage du Peuple avec David, Mauricio et Julien qui nous entretiennent sur la situation en Colombie et dans le fond qui est d'actualité puisque le Canada va vraisemblablement accepter de signer un traité de libre-échange avec ce pays-là qui pourtant n'est pas le pays le plus exemplaire pour ce qui est des droits de l'homme.
Oui, en fait, je dois te corriger un petit instant parce que tout n'est pas encore joué. En fait, le traité a bel et bien été signé, mais il doit être ratifié à la Chambre et comme tout le monde le sait, on est en gouvernement minoritaire actuellement et le Bloc québécois, le NPD, se sont déjà prononcés contre. Évidemment, les conservateurs vont voter pour puisque c'est leur projet. Et les libéraux, en ce moment, gardent un grand silence là-dessus. En coulisses, les libéraux disent si il n'y a pas de contestation, on va aller de l'avant avec le traité, mais par contre, si on s'aperçoit que dans la population canadienne, il y a un mécontentement où les gens n'approuvent pas ce traité-là, et alors nous, on va voter contre. Donc, c'est un peu l'objet des mobilisations qu'on fait depuis les dernières semaines et qu'on va faire le mois prochain, de demander aux gens d'écrire des lettres à leurs députés, de signer des pétitions et des choses comme ça. Il va y avoir une manifestation le 4 mai à Ottawa, la date où devrait être signé le traité. On espère qu'il y ait beaucoup de personnes. Il devrait y avoir du transport organisé par le regroupement autonome des jeunes. Donc, les gens qui veulent nous contacter peuvent le faire au 819-542-5645. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Mais actuellement, il y a un cynisme terrible chez les libéraux de dire si les gens s'y opposent, on va voter contre, mais sinon, tout va bien, puis on va voter pour.
Mais je pense que les libéraux, je ne sais pas dans quel pays habitent, parce que tout le monde est contre le Canada. Si vous regardez, les Églises unies du Canada sont contre, les organisations des droits humains sont contre, les organisations syndicales sont contre. Les organisations sociales en général sont contre, les organisations communautaires sont contre et les deux partis d'opposition, les Blocs et les NPD, sont contre. Donc on espère que les libéraux vont prendre leur responsabilité. Hein.
Oui, mais en fait aussi, c'est vraiment surprenant, là, c'est que j'écoute pas les différentes organisations de droits humains parce que c'est eux justement qui travaillent avec le problème et c'est eux qui constatent sur place. Et d'autant plus que nous, en fait, de la Colombie, on a envoyé une lettre avec des sénateurs, des congressistes, des gens, en fait, de tous les horizons ici en Colombie, mais des gens quand même qui sont assez importants ici en Colombie, qui connaissent vraiment ce qui se passe. Et je peux vous dire que la société civile ici, plus n'en veut pas, et est vraiment en train de lutter. Donc, autant d'un bord comme de l'autre, les gens n'en veulent pas. Mais ce que les libéraux veulent, là, c'est une espèce de cirque médiatique où, en fait, si les gens en fait, sortent en fait, assez dans les médias et qu'on entend parler c'est ça pour la sortir de la prochaine élection, là, ils vont voter contre. Mais en attendant, par contre, ils endossent totalement la position du gouvernement Harper, parce qu'ils ont toujours endossé le libre-échange, et c'est eux-mêmes qui ont fait la zone de libre-échange des Amériques et qui a finalement échoué. En fait, ils voient beaucoup plus le profit que ça peut faire à des compagnies que les conséquences au niveau des droits humains. Et ça, c'est inacceptable. Je veux dire, quand on dit que les gens peuvent se faire tuer parce que les compagnies qui vont s'installer dans des régions contrôlées, en fait, par les milieux de l'extrême droite. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de déplacements, plus de paysans, en fait, qui vont se faire voler leur terre à ces milices-là, parce que c'est ce qui arrive. C'est que si vous allez dans des régions rurales, bien là, il y a des milices paramilitaires, en fait, qui vont arriver sur votre terre. Ils vont vous dire, bon, mais c'est plus ta terre, en fait, votant, tu as 3 jours pour t'en aller de ta terre. Et les paysans, en fait, se retrouvent en Haïti avec un problème d'indigence incroyable à cause de paysans qui sont déplacés. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a favorisé les multinationales, Chiquita, et puis des compagnies de plantation de palmes, en fait. Et donc, ce que ça va faire, ce traité libre-échange-là, ça va favoriser l'implantation encore plus de multinationales, donc encore plus de paysans vont être déplacés. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et j'espère que les libéraux vont se souvenir de la tradition de droits humains qui clame haut et fort depuis l'histoire de l'Ukraine. J'espère qu'ils vont se souvenir de l'image en fait, qu'ils ont donnée au Canada au niveau des droits humains quand ils vont voter sur ce traité-là, parce que ça, là, ça va détruire totalement l'image du Canada au niveau des droits humains, surtout en Amérique latine.
Oui, puis... On se rappelle aussi que le président Bush, lorsqu'il était au pouvoir, a essayé d'amener au Congrès américain un pareil traité de libre-échange, et puis que ce traité-là a été bloqué par les démocrates, et que le même traité a aussi été bloqué en Norvège. Donc, parce que je pense qu'il est important de mentionner aux auditeurs, c'est aussi toute la géopolitique d'Amérique latine. En fait, lorsque George Bush était au pouvoir, il formait un tandem avec Harper. Ce tandem-là comptait beaucoup sur une alliance en Amérique latine avec les gouvernements colombiens et les gouvernements péruviens, parce qu'on sent que la droite nord-américaine est en train un peu de perdre pied sur ce qui était antérieurement leur cour arrière, finalement. Et donc, que ces traités-là sont très, très importants pour eux de garder une influence politique dans la région qu'ils sont en train de perdre avec la montée des mouvements politiques de gauche en Amérique latine.
Oui, puis à ce titre-là, il faut dire que le Canada, le seul autre pays avec lequel le Canada a signé un traité de libre-échange dans la région, c'est le Pérou, qui est, si on veut, le seul autre pays actuellement qui est sensiblement à droite et qui, d'ailleurs, s'amuse à faire un peu comme la Colombie, puis à continuellement déplacer certaines populations. Il y a eu des grèves générales assez impressionnantes dans le sud du Pérou, exactement là où les compagnies minières canadiennes exploitent sans donner de redevance aux paysans. Puis on voit très bien que là où les intérêts miniers canadiens sont, le Canada cherche à légitimiser le pouvoir en place malgré les exactions qui sont commises.
Il peut avoir aussi une stratégie américaine d'essayer d'aller reprendre le pouvoir dans cette zone-là de l'hémisphère sud, parce qu'ils ont redéployé leur 5e flotte navale, qui est en fait les flottes navales américaines, c'est une des principales puissances militaires au monde. Donc, ils l'ont redéployé. Elle va continuer de faire des allers-retours autour de l'Amérique du Sud, et dans les Caraïbes aussi. Donc, présentement, c'est vraiment un enjeu géopolitique, comme tu le disais, Julien, qui est vraiment important pour l'ensemble de l'avenir de la géopolitique.
Ben, c'est qu'enfin, les gouvernements de Harper et puis le gouvernement qui était le gouvernement de Bush n'ont pas abandonné le projet de zone de libre-échange des Amériques et essaient de le reconstituer à la pièce, hein, ce qui est d'autant plus pernicieux. Puisque à chaque traité bilatéral que le gouvernement canadien signe, alors là, la société civile doit se lever dans chacun des cas. Puis ça rend l'exercice de la démocratie par la société civile extrêmement difficile.
Ce qui est terrible aussi, c'est écouter à Stephen Harper aller au Chili l'été passé, à visiter le Chili après avoir visité la Colombie et parler du modèle canadien d'économie. Donc, un modèle qui respecte les droits humains. Mais quels droits humains vous êtes en train de respecter quand vous êtes en train de légitimiser un gouvernement qui bafoue, qui viole systématiquement les droits humains? Donc, je ne comprends pas la logique de ce gouvernement conservateur. C'est pour ça qu'on continue à s'opposer, on va continuer à s'opposer férocement. Et je sais, David, que toi, en Colombie, tu as rencontré le sénateur Robledo, membre de l'opposition du pôle démocratique. Je ne sais pas si ton mari a partagé avec nous la rencontre que tu avais eue avec lui.
Je peux vous dire que ça a été très constructif parce que justement, l'opposition est vraiment unie contre ce traité-là et surtout que un des plus gros partis de gauche d'Amérique latine, c'est le pôle démocratique, et qui est une espèce de coalition d'opposition eux ont un comité justement d'opposition à toutes sortes de traités de libre-échange. Et donc, pour l'instant, celui du Canada.
Il vous reste deux minutes.
Oh, je pense qu'on va perdre l'appel en Colombie.
Ça, c'est notre carte, ça.
Oui.
Une carte d'appel.
Ben, on
c'est
va...
la crise économique, là, c'est
ouais.
Non, ben, on peut continuer ce qu'il disait, puis on va faire une pause musicale, puis on va revenir avec une autre carte qui est pleine.
Génial.
Ah, tu peux terminer ce que tu disais, David?
OK. Ben, je disais juste qu'en fait, ils sont déjà coordonnés. Le sénateur Robledo a déjà été au Canada, en fait. Il a été lui-même dire aux libéraux, dire aux conservateurs, dire à tous les partis politiques du gouvernement canadien le temps énorme que ça va faire, en fait, au niveau des droits humains. Et les libéraux eux-mêmes sont vraiment très hésitants et voient beaucoup plus les possibilités économiques. Et ça, c'est très inquiétant, en fait.
Donc, on va aller faire une pause musicale.
Oui, Mauricio, est-ce que tu veux nous présenter l'artiste qu'on va écouter?
Oui, c'est Carlos Lugo. C'est un compagnon de l'Association des étudiants universitaires de la Colombie. C'est un compositeur. Il a composé les paroles et lui aussi a vécu la répression fortement. Donc,
on va écouter ça.
Ya se durmió en el vientre del dolor. Nunca lo sospechó. Nunca lo sospechó. Que el dolor sería su su hogar y su colchón, que no habría lugar para más desilusión. Sueños de alta mar, mejor duerme ya, reina de mi afán, soy tu fiel cristal. Vienen vientos de abril, como notas que te hacen dormir, y una triste canción que me hace sentir tu dolor. Luna, 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 luna.
Avec David qui se trouve en Colombie, ce qui explique entre autres les interférences ou le son particulier. Puis on parle actuellement de la Colombie, puisque le Canada va sans doute, enfin on l'espère pas, signer un traité de libre-échange avec la Colombie. Et David, toi tu as rencontré, petit chanceux, l'ambassade du Canada en Colombie. Quelles sont tes impressions?
Ouais, ben disons que ça a été assez drôle parce que en fait, hier j'ai vu Guillaume, ça a été très difficile de les rencontrer. Mais bon, ça a été très sympathique et tout. Sauf que j'ai trouvé, en fait, surtout avec ce qui s'est passé récemment, c'est que les visas, en fait, il y en a un qui a été refusé. En fait, on a fait deux demandes de visa. Et l'autre, en fait, est toujours en suspens. Et c'est bizarre, en fait, on nous a dit en plus que c'est hors délai, parce que c'est vraiment hors délai. Parce que normalement, ça prend 15 jours, c'est au-dessus d'un mois qu'on attend. Et on n'a toujours pas de réponse, en fait. Et ça paraît assez bizarre de m'expliquer de l'ambassade. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vraiment pas nous laisser faire venir, en fait, nous inviter tant que leur libre-échange ne serait pas fait. D'autant plus que j'ai appris que cette même ambassade-là avait été faire des appels à différents députés pour leur dire d'adopter ce traité-là, qu'on en avait besoin et tout ça. Donc, l'ambassade, en fait, il y a vraiment un changement d'attitude depuis que les conservateurs sont là, on le voit très clairement. Et ça fait partie, en fait, selon moi, la surveillance de très près que le gouvernement conservateur fait avec tous les fonctionnaires fédéraux, y compris dans les ambassades. On se rappelle quand même qu'il y a eu des différents congédiments qui ont été injustifiés et que les mêmes fonctionnaires sont en train de poursuivre le gouvernement parce qu'ils ont, en fait, agi de façon indépendante selon, en fait, les règles et que ça ne faisait pas du tout au Parti conservateur. Donc, ça, selon moi, en fait, l'ambassade, c'est ce qu'elle vit actuellement. Je ne blâme pas nécessairement le personnel de l'ambassade. Ce que je blâme surtout, c'est une ligne politique qui est imposée, en fait, aux différentes instances du gouvernement.
Puis, pour continuer, on va parler des réfugiés colombiens, puisqu'il y en a beaucoup. Puis, le Canada, c'est un des pays qui accueille le plus de réfugiés permanents, disait Julien, seulement. La situation tendrait à s'inverser peut-être même. Puis d'ailleurs, faut remarquer que c'est assez paradoxal que le pays qui accueille le plus de réfugiés d'un pays qui est en guerre s'apprête à signer un traité de libre-échange pour légitimiser le pouvoir en place.
Oui, ben en fait, comme le disait David, on a fait la demande de visa pour deux militants du mouvement étudiant colombien, mais le gouvernement ou enfin l'ambassade a eu peur que ces gens-là puissent dénoncer le traité de libre-échange. En fait, c'est notre hypothèse. Mais ça, c'est deux cas particuliers. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des Colombiens, il y a des Colombiennes qui demandent des visas, ils demandent le statut de réfugié pour venir au Canada, pour se protéger, pour sauver leur vie. Et de plus en plus, ces gens-là se font refuser le statut de réfugié. En fait, c'est extrêmement dangereux, la politique de resserrement que le gouvernement pratique. Je pense que si on a l'occasion de partager une discussion avec notre ami Mauricio aujourd'hui, c'est en partie parce qu'il a pu s'éloigner ou se sauver des menaces de mort qui pesaient contre lui. Je crois qu'à titre de pays qui a la possibilité d'héberger ces gens-là, on doit absolument le faire. Et c'est très désobligeant, la politique actuelle.
On est en train de rejeter les demandes d'asile politique, qu'on appelle les réfugiés politiques, avec l'argumentation de qu'il n'y a plus de groupes paramilitaires. Mais les groupes paramilitaires, ce sont juste transformé en aigle noir, c'est le nouveau escadron de la mort qu'on peut appeler. Donc,
surtout que paraît-il que l'année 2008 a été une des plus difficiles pour les droits de l'homme en Colombie, presque semblable à l'année 2002 qui avait été particulièrement éprouvante. Donc la situation est loin de s'arranger.
Ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, Mauricio et puis David, avec d'autres personnes, en mai dernier, il y a presque un an déjà, on était en Colombie et on a discuté avec l'ambassade canadienne et le responsable politique de l'ambassade nous avouait de vive voix que même l'ambassade avait reçu des menaces de mort de la part des paramilitaires. Et là, il y a quelques mois, on a appris que des visas de personnes que Mauricio connaissait avait été refusé sous ce prétexte fallacieux qu'il n'y avait plus de paramilitaires.
Bref.
C'est complètement tordu.
Les menaces fonctionnent.
Enfin, lorsque les gens se font rejeter leur statut de réfugié, généralement, théoriquement, en fait, il devrait y avoir des mesures où les gens puissent, que les gens puissent porter appel à cette décision-là. Mais le gouvernement n'a toujours pas mis les fonds nécessaires pour mettre en œuvre ce mécanisme de fonctionnement-là. C'est totalement désobligeant.
Mais ça, tout ça, ça montre à quel point, en fait, ce gouvernement-là est prêt à aller loin pour sa propre idéologie, en fait. Il a fait abolir le programme de concertation judiciaire dernièrement. En fait, il a carrément saboté. Et ce programme-là, en fait, permettait justement aux citoyens de contester certaines décisions du gouvernement. On pense aussi à la loi d'accès à l'information qui a été modifiée, où les délais sont tellement lourds, en fait, que la personne qui était aux plaintes, en fait, l'ombudsman de cette organisation-là qui gère, en fait, cette loi-là, a fait une alerte à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs irrégularités grandissantes qui font que le gouvernement Harper montre à quel point il est prêt à aller loin sur son idéologie, même à prépasser, en fait, des droits qui sont totalement fondamentaux, que ce soit des droits démocratiques au Canada, ou même les droits humains carrément. Ici, on est même pas encore en train de parler des droits démocratiques. On est en train de parler des droits humains, on est en train de parler juste des droits aux gens de vivre, point, qui sont violés. Alors imaginez les droits démocratiques et la Colombie qui vit une plus vieille démocratie. Le gouvernement est en train de signer un accord de libre-échange avec ce pays-là qui est le pire bilan. Alors, elle est où sa politique des droits humains? Moi, je pense que c'est beaucoup plus une question idéologique qu'autre chose.
Pour donner une idée de la situation en Colombie, il y a l'Organisation d'observation des droits humains pour les Amériques. Le directeur a déposé un rapport où est-ce qu'on compare, dans le fond, le régime d'Alvaro Uribe, c'est-à-dire le président de la Colombie. Il comparait au régime militaire du général Pinochet qui a gouverné le Chili sous une dictature pendant plus de 17 ans puis qui a été tenu responsable de la mort et de la dispersion de plus de 3000 personnes. Donc, il comparait à...
C'est
ça, parce qu'en Colombie, c'est à chaque année qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes ou disparues. Donc, c'était ça qui est... C'est pour donner une idée de l'ampleur, dans le fond, des droits humains en Colombie.
Oui, il faut dire que cette organisation des droits humains est une organisation qui critique tant avec la gauche, par exemple, au Venezuela, qu'avec la droite colombienne. Donc, bien pas nous dire, Harper, que c'est juste la gauche ou la gauche, comme on appelle de façon péjorative la gauche, pour venir à dire que c'est juste une question de la gauche qui s'oppose au traité de libre-échange. C'est tout le monde qui s'oppose avec le traité de libre-échange.
Uribe, il condamnait le directeur de l'Organisation des droits humains d'être un complice et défenseur de la guérilla des FARC.
Non, c'est l'argument favori, je pense, du pouvoir. Hein? Attribuer à peu près tous les actes de dissidence aux terroristes que le gouvernement cherche à détruire, mais en fait, qui, selon moi, légitimise sa politique de terrorisme étatique.
Que le gouvernement conservateur puisse appuyer un discours comme ça, on peut rester un peu bête là-dessus, mais c'est d'autant plus inquiétant que le Parti libéral puisse ne serait-ce que songer à ça. Ça démontre aussi le virage à droite de ce parti-là. Hein.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'y opposer. Hein. Il faut s'y opposer avec force, il faut... Et envoyer des lettres aux députés, il faut signer les pétitions, il faut participer à la manifestation.
Écrire dans les tribunes libres.
Dans les tribunes libres. Le 4 mai, on va sûrement avoir un autobus. Et donc, vous pouvez appeler Orage.
Au 819-542-1045.
Pour avoir un transport pour aller à la manifestation à Ottawa pour s'opposer au traité de libre-échange entre le Canada et la Colombie. Pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, et bien plus encore. Pour les 5 dernières minutes, j'aimerais ça que vous trois, vous me donniez votre avis. Vous pouvez péter une coche ou quoi que ce soit, je vous laisse le temps.
Moi, je crois que... Je ne sais pas, David, toi, que toi, en Colombie, commence-toi et après ça, on va continuer.
Ben moi, en fait, là, j'aimerais juste dire que j'espère qu'un jour, il y aura de justice sociale. En tout cas, on est très loin de ça. c'est certainement pas avec un traité de libre-échange qu'on va y arriver. Mais je suis vraiment écœuré de voir de l'indigence dans les rues, de voir des gens qui sont déplacés, qui ne savent plus quoi faire, qui montent dans n'importe quel autobus pour demander de l'argent parce que ils ne font pas des jeux qui n'ont pas mangé. Le gouvernement, en fait, colombien, nie totalement ça. En fait, il donne juste certaines entreprises. Et le gouvernement canadien, on est en train d'appuyer ça. Puis on est en train d'opprimer un peuple, on est en train de coloniser carrément de façon économique et ça. Alors que nous-mêmes, on a vécu l'expérience pendant une centaine d'années d'avoir été colonisés. Et je comprends vraiment pas pourquoi on réussit à faire ça. Et surtout que ça va prendre, à un moment donné, en fait, un véritable tissu social. Parce que les gens ici meurent de faim, et surtout avec la crise économique, là, il y a rien qui est en train de se régler, là.
Mais enfin, c'est difficile, tu me prends un peu au dépourvu sur une question aussi large que ça. Mais enfin, je pense que, si, peut-être pour élargir un peu la discussion, la dynamique qui se passe dans le reste de l'Amérique latine est, à mon avis personnel, extrêmement intéressante. Le gouvernement canadien tente par tous les moyens d'empêcher cette dynamique d'émancipation sociale qui se passe dans le reste de l'Amérique latine. Et je pense qu'il faut partager les succès sociaux qui sont en train de se vivre dans ces pays-là. Mon Dieu, je pense que c'est merveilleux. Et si dans le cas du 4 mai, où il devrait y avoir un vote positif pour le traité de libre-échange, ben ça sera un jour très terne pour l'ensemble des gens de l'Amérique latine et ça sera un jour très terne pour les gens en Amérique du Nord. Je pense que ce traité-là est un traité d'envergure continentale. On ne doit pas prendre ça à la légère. On pourrait penser au premier abord que c'est un petit enjeu, mais ce n'est pas.
Moi, je veux juste faire un appel à tout le monde. Il ne faut pas garder silence. C'est un appel à la solidarité. Comme à la fin du 19e siècle, José Martín disait « La solidarité, c'est la tendresse des peuples. La solidarité, c'est la ternura de los pueblos. » J'invite à tout le monde à se solidariser, à participer, à crier haut et fort. Et justice sera faite. Et j'espère que les 4 mai, au lieu d'être un jour terrible pour le Canada, ça va être plutôt une victoire pour les organisations sociales qui continuent à croire qu'un autre monde est possible.
Bon, mais c'est ce qui va conclure notre émission d'aujourd'hui. Je remercie énormément Julien Laflamme, Mauricio Correa et David Lanville d'avoir contribué à l'émission de radio. David, qui était d'ailleurs en Colombie, pour nous donner ses impressions. On va pouvoir réécouter l'intégralité de l'émission sur notre blog, qu'on retrouve à l'adresse suivante, ucl-sherbrooke.blogspot.com.
On vous rappelle, si vous voulez participer à la manifestation du 4 mai prochain pour vous opposer à la signature du traité de libre-échange entre le Canada et la Colombie, vous pouvez appeler au regroupement autonome des jeunes au 819-542-1045. N'hésitez pas, ça va certainement être une belle preuve de solidarité pour qu'on puisse réussir à changer les choses.
Tout ça, c'était La Rage du Peuple, émission d'actualité sociopolitique très anarchiste.
On vous dit à la semaine prochaine.